Pierre Loti, Suleyma, prologue. C'était en Algérie, à Oran, en 1869, époque à laquelle j'étais presque un enfant. Plumket avait encore tous ses cheveux. C'était un matin de mars, Oran se réveillait sous un ciel gris. Nous étions assis devant un café qu'on venait d'ouvrir dans le quartier européen. Nous n'avions pas froid parce que nous arrivions de France, mais les Arabes qui passaient étaient entortillés dans leurs manteaux et tremblaient. Il y en avait un surtout qui paraissait transi. Il traînait une espèce de bazar portatif qu'il étalait devant nous et s'obstinait à nous vendre à des prix extravagants des colliers en pâte odorante et des babouches. Une petite fille, pieds nus, en haillons, se cramponnait à un burnous. Une délicieuse petite créature qui était toute en grands yeux et en longs cils de poupée. Elle avait un peu l'exagération du type indigène, ainsi que cela arrive chez les enfants. Les petits Arabes et les petits Turcs sont tous jolis avec leurs calottes rouges et leurs larges prunelles noires de cabri. Ensuite, en grandissant, ils deviennent très beaux ou très laids. C'était sa fille, Suleyma, nous dit-il. En effet, c'était possible après tout. En décomposant bien cette figure de vieux bandit et en la rajeunissant jusqu'à l'enfance, on comprenait qu'il eût pu produire cette petite. Nous donnions des morceaux de sucre à Suleyma comme à un petit chien. D'abord, elle se cachait dans le burnous de son père, puis elle montrait sa tête brune, en riant d'un gros rire de bébé et en demandait d'autres. Elle retournait ce sucre dans ses petites mains rondes et le croquait comme un jeune singe. Nous disions à ce vieux, « Elle est bien jolie, ta petite fille. Veux-tu nous la vendre aussi ?» C'était dans toute la candeur de notre âme. Nous nous amusions de l'idée d'emporter cette petite créature d'ambre et d'en faire un jouet. Mais le vieil arabe, nullement candide, écarquillant ses yeux, en songeant que sa fille réellement serait belle et souriait comme un mauvais satyre. Les gens du café nous contèrent son histoire. Il venait d'arriver à Oran, où il était sous la surveillance de la police, ayant fait autrefois le métier de détrousseur dans le désert. M'étant querellé avec Plumket, je pris après déjeuner la route des champs et passai par la montagne pour entrer à Merselkébir, où nous attendait notre vaisseau. Je montai assez haut d'abord, au milieu de roches rougeâtres qui avaient des formes rudes et étranges. Il faisait vraiment froid, et cela me surprenait dans cette Algérie que je croyais pour la première fois. Je m'étonnais aussi de rencontrer ça et là, parmi des plantes inconnues, des tapis d'herbe fine avec des petites marguerites blanches, comme en France. Le temps était aussi sombre qu'en Bretagne. Le vent courbait les broussailles et les herbes. Il s'engouffrait avec un bruit triste partout dans les ravins et les grandes déchirures de pierre. J'arrivais maintenant à une crête de montagne. Un gros nuage passait la tête derrière et le vent l'émiettait à mesure. En sifflant, ce vent l'éparpillait sur l'herbe, le faisait courir autour de moi en flocons gris comme de la fumée. Cela me semblait fantastique et sinistre de voir s'enfuir sur l'herbe ces petits morceaux de nuages qu'on aurait pu attraper avec les mains. Et je m'amusais à courir après, en tendant les bras pour les prendre comme cela arrive dans les rêves. Je me reposais à l'abri dans un coin de rocher où dormait un rayon de soleil. Près de moi, tout à coup, un bruit léger d'herbe froissée, je regardais une tortue. Une tortue, drôle à force d'être petite, un atome de tortue. Son écaille jaune à peine formée, toute couverte de dessins en miniature. En bas, très loin, sur une route qui fuyait dans la direction du Maroc, on voyait cheminer des silhouettes efflanquées de chameaux que conduisaient des Arabes vêtus de noir. Le Ramadan, où l'on s'habille de laine sombre, tombait en mars cette année-là. Je pris cette petite tortue et la mis dans ma poche. À bord, nous décidâmes de l'appeler Sulaïma. Je restai 3 mois dans cette Algérie. Pour la première fois, je vis le printemps splendide d'Afrique. Souvent, je rencontrais Sulaïma, la petite fille, trottant pieds nus dans les rues d'Oran, pendue au burnous sordide du marchand de babouches. Puis un jour, mon navire reçut l'ordre de partir pour le Brésil, et je m'en allais, n'emportant les 2 Sulaïmas que la tortue. 25 mars 1879, 10 ans plus tard. Dans notre pays, cette année, le printemps tarde à venir et c'est encore l'hiver pâle et triste. La nuit de mars tombe lentement et je suis seul dans ma chambre. Jamais, depuis mon enfance déjà lointaine, je n'étais resté si longtemps au foyer. 6 mois, c'est un long repos. Et je l'aime, ce foyer que j'ai tant de fois déserté. Et chaque fois que je le quitte, je sens une angoisse. En songeant qu'au retour, je pourrais y trouver peut-être encore quelques places vides. Les figures très chéries qui me le gardent sont déjà, hélas, marquées par le temps. Je vois bien qu'elles s'affaiblissent avec les années, et cela me fait peur. Je ne sais rien de triste comme la tombée des nuits d'hiver, ces airs ternes et mourants que prennent les choses. Ce silence de ma maison, augmenté encore par le silence de la petite ville qui l'enserre. Auprès de moi, il y a Sulaïma qui dort, Sulaïma la tortue. Depuis les fraîcheurs de novembre, elle est enfermée dans sa boîte, qui est pareille à celle où couchent les perruches, et elle dort son sommeil de petite bête hibernante. Il y a 10 ans qu'elle habite ma maison, tenant fidèle compagnie aux hôtes du foyer pendant que je cours le monde, et gâtée assurément comme l'ont été fort peu de tortues. L'idée me vient d'ouvrir cette boîte. On voit son dos poli, à moitié enfoui dans un matelas de foin très fin. Elle est devenue fort grosse depuis le jour où je l'ai prise dans la montagne d'Oran, par un temps d'hiver comme celui d'aujourd'hui. Et en regardant Sulaïma, je retrouve des souvenirs arabes. La figure enfantine de Sulaïma, la petite fille, repasse dans mon esprit pour la première fois depuis tant d'années. Sulaïma mangeant ses morceaux de sucre avec un petit air de singe espiègle et charmant. Ma pensée se promène vaguement dans cette Algérie où je ne suis plus revenu. Je revois de loin cette époque plus jeune où les pays nouveaux me jetaient en plein visage leur intraduisible étrangeté, avec une puissance de couleur et de lumière qui me semble aujourd'hui perdue. Comme ici, mon imagination s'obscurcit et s'éteint. Mes souvenirs des pays du soleil s'éloignent, s'embrument, prennent l'éteinte vague des choses passées. Ils se mêlent dans ma mémoire et dans mes rêves. Et tout se confond un peu, les minarets et le Stamboul, les sables du Soudan, les plages blanches d'Océanie, et les villes d'Amérique, et les écueils sombres de la mer brumeuse. C'est là l'impression la plus décevante de toutes, sentir qu'on s'ennuie au foyer de famille. Mais qu'y faire? Il y a toujours ce vent d'inconnu et d'aventure qui nous talonne tous et sans lequel notre métier ne serait pas possible. Quand une fois on a respiré ce vent-là, on étouffe après en air calme. Toutes les choses douces et aimées, après lesquelles on a soupiré quand on était au loin, deviennent peu à peu monotones, incolores, et sourdement, on rêve de repartir. Et puis ce crépuscule de mars est pas trop triste aussi. On dirait un suaire qui tombe, et ma chambre prend un air funèbre. Si j'allais à côté dans ma chambre turque pour essayer de changer, j'ouvre une double porte et soulève une portière d'un vieux rose cerise à feuillage d'or. C'est le coin le plus retiré de la maison, cette chambre turque, et les fenêtres qui donnent sur une cour et les jardins sont toujours fermées. Je regarde au dehors. Il y fait déjà nuit et le velours rouge d'une mûre a l'air noir. Par place, on voit briller la lame courbe d'un yatagan, la crosse damasquinée d'un fusil, ou le dessin bizarre d'une vieille broderie. Une odeur de latakié dansant traîne dans l'air qui est lourd et froid. Il y fait un silence particulier, on dirait qu'on entend la nuit venir. Et voilà que cette chambre me jette ce soir un souvenir déchirant de ce Stamboul où j'ai apporté toutes ces choses. Pourtant, ce n'est pas l'Orient, tout cela. J'ai eu beau faire, le charme n'y est pas venu. Il y manque la lumière et un je ne sais quoi du dehors qui ne s'apporte pas. Ce n'est pas l'Orient et ce n'est pas davantage le foyer. Ce n'est plus rien. Je regrette à présent d'avoir détruit ce qui existait avant, qui était bien plus simple, mais qui était plein de souvenirs de mon enfance, car il n'y a plus que cela de bon pour moi. Pouvoir, à certains moments, oublier ma vie d'homme dépensée ailleurs et me retrouver ici, enfant, tout enfant, c'est l'illusion que je m'amuse à chercher par toutes sortes de moyens, conservant, respectant mille petites choses d'autrefois, avec une sollicitude exagérée. Où est donc ma mère? Il y aura bientôt 2 heures que je ne l'ai vue, et il me prend une grande envie de sa présence. Je laisse retomber la portière de couleur cerise et je m'en vais. Un instant, je cherche ma mère dans la maison, sans la trouver. Elle est unique, cette maison d'ailleurs. On dirait toujours qu'on y joue à cache-cache. Elle est vraiment trop grande à présent pour nous trois qui restons. Je rencontre Mélanie qui traverse la cour, enflant le dos avec un air gelé. Mélanie, savez-vous où est madame? Mon Dieu, elle était là tout à l'heure, monsieur Pierre. Alors je verrai ma mère un peu plus tard, à l'heure du dîner. Je vais monter au second étage, trouver ma grand-tante Berthe. Dans les escaliers, l'obscurité s'est déjà faite. Étant enfant, j'avais peur le soir dans ces escaliers. Il me semblait que des morts montaient après moi pour m'attraper les jambes, et alors je prenais ma course avec des angoisses folles. Je me souviens bien de ces frayeurs. Elles étaient si fortes qu'elles ont persisté longtemps, même à un âge où je n'avais déjà plus peur de rien. J'essaie de monter 4 à 4 ce soir pour retrouver dans la vitesse un peu de ces impressions d'autrefois. Mais non, hélas, les formes qui s'allongeaient, les bras noirs qui passaient à travers les barreaux des rampes, les mains des fantômes n'y sont plus. Pas même moyen d'avoir cette peur-là. Au second, j'ouvre la porte d'une chambre calfeutrée et j'entre. On dirait qu'il n'y a personne car rien ne bouge. Pourtant, une intelligence est là qui veille. C'est toi, petit? Dit une voix de 90 ans qui part d'un grand fauteuil au coin du feu. La tête qui s'enfonce dans les coussins a été jadis bien belle. On la devine encore aux lignes droites et régulières du profil. Les yeux ternes ne voient plus, mais derrière ce miroir obscurci par les années d'intelligence, a gardé sa flamme claire. Tous les jours, elle est là, à ce même coin de feu, la vieille, vieille tante Berthe. C'est toi, petit? Je réponds, oui, tante. Je touche une pauvre main ridée qui se tend vers moi en tremblant et en tâtant, et puis je m'assieds par terre à ses pieds. Je déteste les chaises. Plumquette dit même que c'est là un des indices de ma nature et de mes mauvaises fréquentations, ne savoir plus m'asseoir comme tout le monde et toujours m'étendre ou m'accroupir comme font les sauvages. Cela a été bien souvent ma place de cet hiver, là, devant ce feu, par terre, au pied du fauteuil de ma grand-tante Berthe, lui faisant conter les histoires du temps passé, ou écrivant sous sa dictée de curieuses vieilles choses que personne ne sait plus. Dans le corridor, une grande pendule sonne lentement 6 fois. C'est l'heure triste et grise du chien et loup. « Dis-moi, petit !» Elle m'a conservé ce nom. « En effet, je suis toujours le plus jeune, l'enfant pour elle, qui a vu passer 3 générations. Dis-moi, petit, à vos cloches de bord, n'est-ce pas? Vous sonnez 2 coups doubles pour 6 heures, 3 coups doubles pour 7 heures et 4 pour 8. Oui, tante Berthe. Et vous dites piquer les heures au lieu de sonner, comme nous disons nous autres les gens de la terre. Oui, continue-t-elle d'une voix plus lente, comme fouillant dans les profondeurs d'un passé des bras presque morts. Parmi toutes ces choses accumulées dans sa vieille mémoire, oui, je me souviens, quand j'étais petite fille et que nous habitions notre campagne de la Tublerie, j'entendais les soirs d'été ces cloches des navires de la rade. Or, il y a environ 80 ans que tante Berthe était une petite fille, et 80 ans aussi que cette Tublerie a été vendue par mon arrière-grand-père. Ces matelots qui sonnaient ces cloches, et qui étaient jeunes alors, sont morts de vieillesse depuis longtemps. Leurs navires sont démolis et tombés en poussière. Et ces soirs d'été où ces cloches s'entendaient sur la mer, c'est singulier, ils m'apparaissent dans ce lointain plus lumineux que les nôtres et plus beau. Ce n'est rien pourtant, 80 ans, quand il s'agit des transformations lentes, des règles sensiblement immuables du cosmos. Dis-moi, la tortue a-t-elle commencé à se remuer, petit ? Non, tante, elle n'est pas réveillée. Signe de retard dans les saisons, vois-tu ? Je parierais que nous aurons encore de la gelée blanche cette nuit. Oh, je la sens qui me tombe sur les épaules. Remonte un peu mon châle, je te prie, et puis fais flamber le feu, cela t'occupera. Le fait est que tout s'en mêle. La grosse bûche se consume comme avec souffrance, exhalant une petite flamme intermittente et pâle. Elle se refuse à mieux flamber. Tante Berthe se met à chanter d'une petite voix cassée et flûtée, qui semble venir de très loin dans le passé. Elle chante en marquant la mesure avec son pied un vieux Noël du pays que j'ai noté hier sous sa dictée. Après, elle ne dit plus rien et s'affaisse dans une sorte de somnolence. Il lui faut du bruit à présent pour redevenir gaie et spirituelle. Il lui faut des visites, du mouvement autour d'elle et de la lumière. Et la nuit grise continue de descendre. Je crois que je vais m'assoupir, moi aussi, dans une sorte de rêve mélancolique. Ce qui me manque au foyer, c'est l'élément jeune, c'est quelque chose qui répond à ma jeunesse à moi. Cette maison, qui jadis était joyeuse, est bien vide à présent et bien morne. On dirait qu'il s'y promène des fantômes. Ma vie s'y écoule, tranquille et régulière, en compagnie de vieilles personnes, bien chéri pourtant. Mais il me semble, par instant, que moi aussi je suis devenu vieux et que c'est fini à jamais du soleil, de la mer et des aventures et des pays lumineux de l'islam. Et là, auprès de ma vieille tante, je me perds dans des rêves bizarres de vieillesse et de mort, pendant que la nuit froide de mars s'épaissit lentement autour de nous. 4 avril 1879, 8 jours après. Sous mes pieds, des montagnes rouges ondulant au loin en lignes tourmentées. Autour de moi, des lentisques, des lavandes, des tapis de fleurs exotiques aux senteurs d'aromates. Dans l'air, les parfums capiteux d'un printemps plus chaud que celui de l'Europe. un grand paysage aride, désert, vu de très haut. Au premier plan de montagne, des lumières crues, heurtant de grandes ombres dures, toute la gamme des gris ardents et des bruns rouges. Dans les fuyants infinis des lointains, des bleus limpides et des nuances d'iris. Un air vivifiant et chaud, un ciel plein de rayons. Là-bas, sur la route qui fuit et se perd dans la direction du Maroc, une bande d'Arabes passe et disparaît. Et en haut éclaire le grand soleil d'Afrique. C'est bien inattendu, cette Algérie. Cela me charme et me grise après ce long hiver sombre où je m'étais affaissé sur moi-même comme si la jeunesse et la vie m'eussent abandonné. Je suis seul au milieu de ces montagnes. Je regarde et je respire. C'est donc vrai qu'il y a encore au monde de l'espace et du soleil. Hélas, comme il me paraît terne et pâle vu d'ici, ce temps que je viens de passer au foyer de famille. C'est navrant d'éprouver cette impression, mais je sens que je m'éveille d'une sorte de sommeil que hantaient là-bas des visions douces et mélancoliques. Je me reconnais ici, je reconnais tout ce qui m'entoure, tous les détails de cette nature, toutes ces fleurettes arabes, les glaïeuls rouges, les lentisques parfumées, les larges mauves roses, les pâquerettes jaunes et les hautes graminées. Toutes les plantes, toutes les senteurs de ce pays, tous les lignes rudes des montagnes, les grandes roches rouges du Marabout et là-bas le cap de Merzel-Kébir qui s'aplatit et s'écrase dans la mer bleue, comme le dos bossu d'un méhari. Surtout, je reconnais et j'aime ce je ne sais quoi d'âpre et d'indéfinissable qui est l'Afrique. Il y a 10 ans, j'avais couru ce pays, ces mêmes montagnes et cueilli ces mêmes fleurs. J'avais fait un long séjour ici et je passais mes journées à errer par là, dans ces sentiers de chèvres, dans ces ravins pleins de pierres et pleins de soleil. Je galopais beaucoup sur les chevaux d'un certain Touboul, et je coupais en route de gros bouquets odorants que je rapportais le soir à mon bord. Je n'avais pas tout à fait 20 ans. En moi, il se faisait un mélange de passion et d'enfantillage, mais l'enfant dominait encore. Et je retrouve ici tous ces souvenirs oubliés. Ils sortent des feuilles et des chamérops et des aloès. Ils me reviennent dans toutes ces senteurs de plantes. Voici, tout près, au-dessus de ma tête, ce creux de pierre où certains jours je ramassais Suleyma, la tortue, qui depuis cette époque tient compagnie fidèle là-bas aux bonnes vieilles du foyer. Peut-être est-ce parce que je m'y sens encore étonnamment jeune que j'aime tant ce pays. Et puis, comme c'était inattendu, un ordre brusque, comme il en arrive en marine, des adieux précipités, un bateau rapide, et ce matin, à 4 heures, au lever du jour, la terre d'Afrique était en vue. Avec émotion, je regardais se dessiner, se rapprocher, ces montagnes rouges de Merzel-Kébir, qui me ramenaient à 10 ans dans le passé, et j'aspirais cette senteur de l'Algérie, toujours la même, qui déjà nous arrivait du large mélange de parfums d'herbes et d'odeurs de bédouins. Et vite, j'ai mis pied à terre, pressé de m'enfoncer le plus loin possible dans la campagne de ce pays. Merzel-Kébir, 5 avril. À 11 heures, Plumket, dont le navire est voisin du mien, vient me prendre en tartane et après 1 heure de traversée sur l'eau bleue du golfe, nous arrivons à Oran. Par hasard, nous sommes bien disposés l'un et l'autre, et contents d'être ensemble, ne nous étant pas rencontrés depuis longtemps. Oran, par ce beau soleil, ce temps splendide, nous paraît aujourd'hui très pittoresque et très africain. Nous décidons d'aller revoir le lac Salé, le visage de Vizerguine. Mais avant, par respect pour notre tradition de jeunesse, il faut nous reposer en plein air devant le café Soubiran. Et nous voilà, assis dans la rue, sous ces tentes éventées par de grands souffles chauds qui nous apportent du sable. Devant nous, appuyée à un mur blanc, il y a une jeune fille arabe en haillons qui nous regarde avec deux yeux noirs, déjà effrontés, mais bien beaux. Un ressouvenir, un je ne sais quoi de déjà connu, me repasse en tête et je l'appelle Suleyma. Elle relève un peu ses sourcils, l'air étonné, et mord sa petite lèvre rouge, et puis se cache sous son voile en souriant. Je lui dis, mais tu es Suleyma, la fille de Kaddour, la petite à qui je donnais tous les jours des morceaux de sucre ici, il y a 10 ans. Regarde-moi, tu ne te souviens pas? Oui, dit-elle, je suis bien Suleyma Ben Kaddour. Mais elle a oublié ses morceaux de sucre et s'étonne un peu que je la connaisse par son nom. Et puis elle continue de rire, et ce rire très particulier dit clairement le vilain métier qu'elle a déjà commencé à faire. Cette promenade au lac Salé, je ne sais pourquoi, ne me tente plus. Après tout, on est très bien à Oran, assis à l'ombre. Cependant, pour le plaisir de galoper en compagnie de Plounket, les chevaux sont commandés depuis la veille, on nous les amène, et nous voilà partis. La route est longue au soleil, la campagne pierreuse, sauvage, parfumée. Rien que des palmiers nains et des lavandes, mélangeant au milieu de toutes ces pierres les nuances ternes de leur verdure. De temps en temps, un grand glaïeul rouge jetant par-dessus sa couleur éclatante, ou bien un berger bédouin, demi-nu avec capuchon de laine, promenant des chèvres brunes. Vers 4 heures, nous arrivons à Misserguine. Nous commandons notre dîner à l'auberge du village et nous poussons plus loin. Je veux cependant montrer à Plumket cette terne vallée où j'étais venu il y a 10 ans, un jour d'hiver, avec mon ami John B., qui disait que c'était le pays de Mignon. Cette vallée était charmante en janvier. Elle avait une mélancolie tranquille et suave avec ses grands arbres dépouillés et ses orangers en fleurs. Aujourd'hui, c'est un autre charme. C'est la splendeur du printemps, mais d'un printemps qui n'est pas le nôtre. Tout autour, la montagne aride et ici, une profusion, un luxe inouï de fleurs, un pêle-mêle délicieux de la nature d'Afrique avec celle d'Europe. Il y a des bouées d'oris qui se penchent sur l'eau. Il y a parmi les palmiers et les orangers des recoins humides, ombreux, comme des recoins du nord, où des buissons d'aubépines sont tout fleuris et tout blancs, sous de grands peupliers frêles. Nous dînons dans cette auberge de Misserguine, à la même place qu'il y a 10 ans. Et cela me rend très pensif. De me retrouver à cette table, dans ce village ignoré, d'être encore jeune après tant de courses par le monde, tant d'années passées, tant de choses évanouies. Il y a 10 ans, il faisait froid ici, un vilain vent d'hiver balayait cette route, et puis je me rappelle que nous avions quitté la table pour regarder une noce de colons qui passait, avec une belle mariée en blanc et un violon en tête. Tout cela nous avait même paru un bizarre assemblage de choses. Un village d'Algérie, une soirée d'hiver très froide, et une pauvre noce campagnarde défilant gaiement en musique au crépuscule devant les bédouins et les chameaux. À la tombée de la nuit, nous remontons à cheval pour rentrer bon train à Oran. Au couchant, le ciel qui s'éteint est vert comme une lueur de phosphore. Quand on vient de quitter l'hiver de France, il faut 2 ou 3 jours pour que les yeux ne s'étonnent plus de la lumière de ce pays. Il est nuit close quand nous arrivons à la ville. Les boutiques européennes, les échoppes arabes sont éclairées. Les matelots, les spahis, les zouaves font tapage dans les rues. Et toutes ces filles brunes, au regard noir, mauresques ou juives, qui les appellent aux portes, hélas, me troublent aussi. Plumket me parle, je ne l'écoute plus. Je lui dis des choses quelconques qui sont absurdes. Mon esprit ne peut plus suivre le sien. Et ces créatures, et ce printemps, et cette vie chaude et libre, et les effluves capiteux de ce pays, de plus en plus, me montent à la tête et me grisent. Puis je m'aperçois maintenant que cette petite Suleïma personnifie ce grand trouble inattendu. Je tremble en songeant tout à coup qu'elle est là, à ma merci, si je la veux. Une pudeur me retient pourtant, surtout devant Plumquette. Il y voit toujours trop clair, lui, dans tout ce que je voudrais cacher. Et puis ces sortes d'amours-là, qu'il faut subir, me confondent et me font douter de tout. Je suis encore un peu grisé ce soir par mon retour en Algérie, par le grand soleil, par toutes les senteurs de ce printemps arabe. Je sais que c'est l'affaire des premiers moments, ce sera passé demain. J'essaierai de chasser cette petite fille, au moins par respect pour d'autres qui ont passé avant elle dans mon cœur et que j'aime encore. Plumquette imagine d'aller au Bain-Maur, où nous commençons à nous quereller. Lui veut coucher au bain. Je trouve, moi, la chose absurde et tiens, rentrer à Marcel Kébir. Cette discussion nous conduit fort tard et il en résulte qu'il n'y a plus de voiture sur la place d'Oran. De 11 h à minuit, il nous faut faire à pied cette longue route de Marcel Kébir. Le temps s'est couvert, nuit noire. Ce n'est même pas très prudent, cette promenade, sans avoir pris seulement un bâton. Plumquette prétend que c'est ma faute, et moi je lui en veux parce que la pluie commence. Sur ce dernier point, je sens que je suis dans mon tort, et j'en deviens d'autant plus insupportable. Lui, on m'écoute avec son calme de philosophe qui m'exaspère. L'image de Souleyma me poursuit, et je médite de le laisser là tout seul pour rebrousser chemin vers Oran. Enfin, nous voici sur le port de Marcel Kébir. Nous réveillons un batelier et, par grosse mer, sous la pluie à torrents, nous montons dans une petite barque qui se remplit d'eau. Nous arrivons à bord trempés et de détestable humeur. Marcel Kébir, 6 avril. Pluie fine et temps gris jusqu'au soir. Ma journée se passe à Oran, où je suis seul cette fois, comme je l'avais désiré. Mais cette pluie change tout, l'entraînement est passé et le charme n'y est plus. Pourtant, hélas, j'ai dit à Suleyma de m'attendre dans la casbah ce soir à 10 h. 5 h du soir. Les autres officiers de mon bord se préparent à retourner à Marcel Kébir et me demandent si je pars aussi avec eux. Résolument, je réponds que oui. Je monte en voiture et nous rentrons ensemble. Après dîner, en remontant sur le pont, je regarde là-bas, dans la direction d'Oran, et ma résolution ne tient plus. Ces sortes de résolutions, la nuit tiède qui tombe les emporte toujours. La pluie est passée. Le ciel est assombri encore par des nuages opaques, d'un gris livide, qui se tiennent par longues bandes et semblent très haut, très loin de notre monde. Le vent vient de terre et la montagne mouillée nous envoie ses senteurs plus fortes. Il est déjà tard. Je trouve encore sur le quai de Marcel Kébir une petite voiture ouverte, attelée de deux bêtes maigres qui s'emballent au départ. Le vent de cette course me fouette délicieusement le visage. Une demi-heure durant jusqu'aux portes de la ville. Je monte à pied au quartier Maure et Sulaïma est là qui m'attend au point convenu dans un carrefour noir. La rue que Sulaïma habite est une très vieille petite rue, haut perchée, sur le bord d'un ravin qui semble la nuit n'avoir plus de fond. À Oran, on ne trouve pas comme à Alger de ces belles habitations mauresques d'autrefois qui gardent dans leur décrépitude le charme de leur splendeur morte. Cette maison de Soleima est sordide et misérable. D'abord, nous traversons une cour des miracles, puis des corridors où elle m'entraîne par la main parce qu'il fait noir, et nous montons par une échelle. Je me laisse conduire en tenant dans l'obscurité cette main frêle de jeune fille. Déjà, elle m'impressionne, cette pauvre petite main de prostituée, parce que j'ai vu au jour qu'elle a dû aîner sur les ongles comme une autre main orientale que j'ai bien adorée. Un grenier avec une natte, un matelas blanc et une couverture arabe, c'est la chambre de Sulaïma. Elle allume une petite lampe de cuivre par terre, puis fait signe que nous sommes chez nous. Et me voici, à demi étendu sur cette couche, contemplant Sulaïma qui est debout devant moi, éclairée en dessous par la flamme de sa lampe. Elle est svelte comme une forme grecque dans ses longs vêtements blancs. Elle a relevé ses bras nus au-dessus de la tête, et son ombre, qui monte au plafond noir, ressemble à une ombre d'amphore. Elle me regarde en souriant, et son sourire est doux et bon. Son regard n'a plus du tout l'effronterie de la rue. C'est une chose qu'on lui a apprise, cette effronterie-là, et cela ne lui est pas naturel. Avec ses yeux trop grands et sa régularité exquise de ses traits, elle a l'air ce soir d'une madone brune. Elle ne sait pas encore bien faire son métier, sans doute, car autrement, pour sûr, elle serait moins pauvre. Quand elle va et vient par la chambre, elle a de ce léger balancement des hanches qui est toute la grâce d'une femme, et que chez nous, les hauts talons et les étroites chaussures ont changé en autre chose d'artificiel. Les femmes antiques devaient avoir ce balancement-là, qui n'est possible qu'avec des pieds nus. Ces vêtements sont imprégnés de cette odeur qu'ont toutes les femmes d'Orient, même les plus pauvres. Il semble aussi qu'elles sentent le désert et ces mouvements de petites filles nerveuses, encore maigres, ont par instant une souplesse et une élasticité de sauterelles. Il y a ces deux ou trois mêmes questions éternelles échangées toujours entre deux êtres qui vont se livrer l'un à l'autre, lorsqu'ils ne sont pas rapprochés par le vice tout seul, lorsqu'il y a encore chez eux un peu de ce quelque chose qu'on appelle l'âme. On veut savoir d'où vient, qui on est, qui on a été. Cette curiosité est un reste de pudeur et comme une aspiration vers du vrai amour. Nous causons tous deux dans un sabir un peu espagnol. Elle l'a appris avec les petites juives, dit-elle. Et en le parlant, elle y met parfois et partout hors de propos les aspirations dures de la langue du désert. Les morceaux de sucre à la porte du café Soubira, oui, elle croit bien qu'elle commence à s'en souvenir. Mais elle était si petite alors. Elle s'est assise en croisant les jambes pour chercher plus à son aise dans sa mémoire, comme si c'était très important. Et puis, réflexion faite, elle déclare que non. Je lui ai conté une histoire, cela ne peut pas être moi. Il y a trop longtemps que cela se serait passé. Je n'aurais pas l'air si jeune. Du reste, depuis cette époque, elle a fait un long séjour dans l'intérieur. Son père l'avait ramenée dans le cercle de Biskra, son pays là-bas, très loin, dans le sud. D'abord, on a marché longtemps à pied, et puis on a fait route avec une caravane. Elle-même était sur un chameau avec des dames arabes. On est passé dans le pays où il n'y a plus que des sables. Oui, moi aussi, je le connais, ce pays où il n'y a plus que des sables. Je m'y suis enfoncé plus loin que Sulaïma, par le Soudan, non, et j'ai souffert. Je le retrouve à mesure qu'elle en parle avec sa simplicité d'enfant. Et pendant que mes yeux se ferment et que la petite lampe s'éteint, je vois très bien, sous le ciel éternellement bleu et sur les sables roses, passer cette caravane. Il y a des grillons qui chantent dans le mur. C'est un bruit d'été et cela porte bonheur. Vers le milieu de la nuit, nous entendons au-dessous de nous quelqu'un bouger. L'échelle craque et remue. Et Suleyma s'éveille, inquiète. As-tu de l'argent dans tes vêtements? Dit-elle. Puis elle se lève pour le cacher sous notre oreiller. Mon père pourrait venir avec son frère te le prendre. Je me levai dès que le ciel parut blanchir, ne voulant pas voir ce bouge où j'avais dormi. Dans l'obscurité encore, je descendis cette échelle. Je traversai un couloir en tâtant les murs et puis une cour. J'ouvris une vieille porte à verrou de fer et me trouvai dans la rue. La casbah, encore endormie, sentait bon l'air du matin, était pur et délicieux. Je dominais un ravin plein d'aloès. Je me couchai au bord. Le fond en était encore indistinct, perdu dans l'obscurité noire. Il y avait partout une rare finesse de teinte dans des gammes grises et comme une grande puissance de couleur dans la nuit. Et puis d'étonnantes transparences d'air et des senteurs suaves de pays chauds. D'abord, mes yeux mal éveillés gardaient une fatigue légère et voluptueuse, et puis cela passait à mesure que naissait lentement la lumière. Un bédouin, un marchand de lait de chèvre, qui dormait par terre dans son burnous au milieu de son troupeau, s'éveilla pour m'en offrir. Toutes ces grosses houppes d'un noir roux qui faisaient autour de moi des taches sur le gris pâle des choses, c'étaient ces chèvres qui étaient couchées. Elles commençaient à se secouer avec de petits bruits de clochettes. Puis maintenant, ces plantes sur lesquelles je m'étais étendu et qui étaient de grandes mauves d'Algérie se coloraient vivement en rose. On entendit une porte tourner sur ses ferrures dans ce silence du matin, et une première petite échoppe arabe s'ouvrit, où l'on vendait du café avec des beignets au miel à l'usage des gens matinaux. Deux hommes commencèrent à cuisiner cela dehors, au-dessus d'une petite flamme que déjà le jour faisait pâlir et qui tremblait avec un air de feu follet. Maintenant, elle arrivait vite, la lumière, la grande lumière couleur d'or rose, et elle balayait le souvenir de cette nuit et de ce bouge noir. Et je respirais délicieusement la fraîcheur saine de ce matin. Je me baignais et me retrempais dans cette pureté-là. C'était une impression de bien-être physique, d'une intensité extraordinaire. C'était comme une ivresse d'exister. Étrange rajeunissement que le grand matin apporte toujours aux sens dans les pays du soleil, et qui n'est peut-être rien, après tout, rien qu'une sensation fausse et un mirage de vie. À la porte d'Oran, j'achetais de gros bouquets de roses à des femmes qui se rendaient au marché, et je pris au pas rapide la route de Mersel-Kébir. À mi-chemin, un grand nuage qui montait très vite dans le ciel clair creva sur ma tête. Ce fut la pluie à torrents, et je me réfugiai avec mes roses dans une ferme espagnole. Mais le temps passait. À 8h30, il fallait être à bord et avoir changé de costume pour l'inspection. Tant pis, je repris ma route sous l'ondée et arrivai au téméraire, trempé, ruisselant, comme sortant d'un bain. Du reste, on est habitué depuis quelques jours à me voir faire sur ce vaisseau des entrées pareilles. 17 avril. Suleyma me confiait hier ses projets d'avenir. Pauvre petite fille irresponsable qui me fait pitié. Voici, elle est très ambitieuse. Elle a déjà amassé un peu d'argent et elle le cache dans un recoin que son père ne connaît pas. Bientôt, elle se fera faire un collier à plusieurs rangs de louis d'or disposés dans le goût musulman. Et puis, en emportant sa richesse à son cou, elle s'en retournera dans le sud, dans le cercle de Biskra, où elle est née, pour y trouver un mari qui n'en saura rien et devenir une grande dame de l'endroit. Que dira cela? Et d'ailleurs, quelle sorte de sermon? Serais-je bien en droit de lui faire? puisque moi aussi j'y aurais contribué à ce collier d'or.